Autre radio, autre culture, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons en deuxième partie Patrice Lazarev. Rebonjour Patrice.
Bonjour.
Et Christophe Bouillot. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Cette partie va être consacrée sur le projet de loi Hadopi qui est en train de se discuter à l'Assemblée nationale. Et je sais que cette loi est fortement controversée par beaucoup de médias et par les internautes et puis par l'Europe. Et je voulais en parler parce qu'il y a quand même des choses qui nous chiffonnent un petit peu au fond dans cette loi, également où en était l'état des lieux. Alors, le projet de loi Hadopi donc, vient de l'idée qu'un nombre incroyable d'œuvres sous droit sont pillées sur Internet. Alors, œuvre qu'elle soit musique ou œuvre audiovisuelle. Nous sommes d'accord. Bien. Alors, pouvez-vous nous dire, mon cher Patrice, en quelques mots, qu'est-ce que le projet de loi très controversé Hadopi ?
Alors, en quelques mots, eh bien, c'est un projet de loi qui consiste à, selon l'argumentaire du gouvernement, pour l'instant, si quelqu'un est pris en train de diffuser sur Internet une œuvre alors qu'il n'a pas le droit de le faire, aujourd'hui, c'est sanctionné de façon pénale. Donc, ce sont des peines assez lourdes. Je crois que c'est 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Concrètement, il y a même des internautes qui ont été se constituer prisonniers, parce que ce système-là est en place depuis la loi d'Avtsi de 2005 ou 2006, je crois, droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information. Des internautes ont essayé de se constituer prisonniers, mais il n'y a eu pour l'instant absolument aucune condamnation. Il y a eu 23 dossiers d'étudiés, je crois, en 4 ans, quelque chose comme ça. Donc, on s'est dit, c'est le pénal, c'est quand même très dur pour tous ces pauvres internautes. À la place, on va plutôt essayer de les éduquer et de leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils continuent, sinon on va leur couper l'accès à Internet. Et c'est là que ça pose tout un tas de problèmes. D'abord, sur établir la preuve que quelqu'un a effectivement mis à disposition un fichier audiovisuel pour lequel il n'avait pas le droit de le faire, et ensuite sur la sanction, puisqu'elle ne touche pas directement la personne qui est responsable, mais potentiellement, éventuellement, toute une famille. Donc ça pose tout un tas de problèmes juridiques qui fait que les uns et les autres, de part et d'autre, sont très engagés, très fortement, soit pour, soit contre. Et moi, je viens de faire un effort gigantesque pour essayer de le présenter de manière calme, alors que je suis fondamentalement contre ce projet de loi.
Alors, avant d'entrer directement dans le débat, il faut quand même ajouter qu'un foyer sur deux en France est connecté sur Internet avec un haut débit, et qu'il semble que la France soit le pays qui pratique le plus au monde de téléchargement. Alors je ne sais pas comment ils ont pu le prouver, mais c'est dans l'air du temps, on dit que c'est les Français qui pratiquent au monde le plus de téléchargement. Même les Américains le pratiquent en pratique le moins. Alors on parle de plus d'un milliard de fichiers piratés, d'œuvres musicales audiovisuelles en 2006. Alors que pensez-vous de ce chiffre ?
Il faut voir la source, parce que il y a eu une étude effectivement que j'ai eue sous les yeux qui a donné cet ordre de grandeur, et où manifestement c'était fait de manière très fantaisiste. La méthode n'était pas expliquée, c'est-à-dire que le chiffre est annoncé comme ça, on dit c'est un milliard, c'est une extrapolation à partir de quelques milliers de cas constatés, donc ça paraît... pas forcément discutable en tant que tel, si on essaye de rester intègre intellectuellement, mais la méthode de mesure n'est pas suffisamment clairement exprimée pour qu'on puisse savoir jusqu'à quel point c'est juste ou faux.
La question que l'on se pose, surtout chez les ingénieurs du son, ils se demandent à partir de quand va-t-on pouvoir être accusé de téléchargement pirate ? Est-ce que, en tant que, par exemple, studio de travail, lorsqu'ils ont des contacts avec des musiciens qui sont à l'étranger, que ce soit en Chine, au Japon ou en Amérique latine, qu'ils échangent des fichiers de musique, est-ce qu'ils vont être considérés comme des pirates ?
Alors ça, ça fait partie du problème, effectivement. D'abord, il y a une chose qui me paraît très importante de dire, parce que la langue française est malheureusement un peu pauvre à ce niveau-là, parce que le mot « télécharger » signifie en fait deux actions, est utilisé en français, et on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas plus précis, est utilisé pour décrire deux actions qui sont très différentes et qui, de surcroît, juridiquement, ne tombent pas tout à fait sous le même régime. Il y a ce qu'on appelle le téléchargement descendant, ce que les Anglais appellent le download. Ça, c'est le fait d'aller chercher un fichier sur Internet et de le ramener sur votre ordinateur. Ça, c'est a priori, c'est indécelable et ça n'est pas illicite dans le sens où, dans certains cas, ça peut l'être. Il y a des arrêts de la Cour de cassation qui vont dans ce sens-là. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas prouver l'origine, c'est-à-dire qu'on vous accuse d'avoir sur votre ordinateur ma belle chanson.mp3 qui est un tube mondial et que, pour lequel vous n'avez pas payé. Est-ce que vous l'avez eu en le prenant, en le copiant depuis l'ordinateur de quelqu'un qui n'avait pas le droit de vous le donner ? Ou est-ce que vous l'avez eu en enregistrant la radio, puisque la radio diffuse sur Internet, ou Deezer, ou des sites comme ça, on peut choisir son morceau, et il est très facile, il y a des programmes qui existent pour enregistrer la sortie audio d'un autre programme. Donc ça devient très facile, je l'ai fait encore hier soir pour un morceau qui était justement introuvable sur le peer-to-peer, et il y avait une vidéo sur YouTube, donc du coup j'ai enregistré le son de la vidéo sur YouTube, et puis le programme va même jusqu'à m'enlever les silences avant le début de l'enregistrement et après la fin. Donc c'est parfait. Après, il n'y a plus qu'à renommer le fichier et mettre les tags MP3 et voilà, on a le morceau. Et là, est-ce qu'on peut dire que c'est enregistré, c'est une copie que j'ai fait moi-même pour mon usage personnel? Donc dans ces cas-là, étant donné que la source, elle, est licite, l'exception pour copie privée doit s'appliquer. Donc ça, c'est, cette action-là, elle est impossible à mesurer et en vertu de la présomption d'innocence et du doute qui bénéficie à l'accusé, on ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir ramené sur son ordinateur un morceau qu'il a pris sur Internet. Et puis télécharger, ça veut aussi dire dans l'autre sens, c'est-à-dire ce que les Anglais appellent upload. C'est le téléchargement montant, on va dire. C'est mettre à disposition des autres un fichier que vous avez sur votre disque dur. C'est ça qui est illégal quand on n'a pas les droits. Alors maintenant, ça c'est une distinction qui me semble très importante, parce que malheureusement, comme on utilise le même mot téléchargé pour les deux...
Oui, c'est pris. En fait, on pense tous, enfin tous ceux que j'interroge, pensent que la loi porte sur les deux.
Alors,
les deux principes.
Parce que les logiciels d'échange peer-to-peer, en fait, quand on est en train de ramener un fichier sur son ordinateur, pendant la durée pendant laquelle on le ramène, on le partage avec les autres. Maintenant, les logiciels, il est possible de les paramétrer différemment. Donc la loi qui espère faire arrêter le fait que les gens ramènent des chansons sur leur disque dur, si c'est ça qu'ils essayent d'empêcher, ça ne va pas marcher, parce qu'il suffit de paramétrer son logiciel pour ne plus échanger. Bah, qu'est-ce qui se passera? Effectivement, les œuvres des artistes français vont disparaître de l'échange sur Internet, mais on pourra les récupérer par l'étranger. Donc je ne pense pas que ça ait un gros impact sur les gens qui veulent récupérer des morceaux. C'était quoi la question?
Question piège.
Alors, j'ai perdu le fil en cours de route.
La question portait sur les ingénieurs du son, les studios qui peuvent être amenés à s'échanger des sessions, par exemple sessions Pro Tools, puisque c'est le standard maintenant.
Alors,
on parlait d'international, mais même en France, un truc qui est enregistré à Marseille, qui peut être mixé à Paris, est-ce qu'on peut tomber sous le coup de cette loi?
En théorie, non, parce que normalement, il doit quand même y avoir cette fameuse haute autorité qui doit être créée, c'est pas elle qui est vraiment problématique, c'est le, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le CDP, c'est la commission de prévention, enfin ça va être l'organisme qui charge justement de la partie du volet répressif de la loi. En théorie, il faut quand même que les ayants droit, à un moment donné, saisissent. Et donc disent, on a repéré que sur tel ordinateur, il y a tel morceau qui nous appartient. A priori, quand on est en train de travailler sur une production, on n'a pas encore le morceau définitif. A priori, le public ne l'a pas non plus, sauf si, comme on l'a vu avec U2, un employé d'Universal le met à disposition sur Internet. Là, en théorie, le risque est extrêmement faible. Maintenant, si effectivement, à côté de ça, mettons un studio d'enregistrement typiquement. Le studio d'enregistrement, tous les jours, il y a des gigaoctets de données qui sont échangés avec d'autres studios dans le cadre du travail du studio. Et puis, l'assistant qui, le soir, et ou même dans la journée, il est venu avec son ordinateur portable, puis lui, il échange quelques fichiers là. Lui, il va se faire repérer, mais l'adresse IP qui va être celle qui est vue de l'extérieur, c'est l'adresse du studio. À l'intérieur, s'il y a 10 ordinateurs qui utilisent la même ligne ADSL, on ne peut pas savoir quel ordinateur a commis l'infraction. Tout ce qu'on voit de l'extérieur, c'est l'abonné. Donc l'abonné, dans ce cas-là, ça va être l'entreprise. Donc celle-ci peut être inquiétée, effectivement, pour cette action-là, sans pouvoir déterminer qui en est à l'origine. Est-ce que c'est un des clients du studio qui était là avec son ordinateur? Est-ce que c'est, je sais pas, quelqu'un de la famille, ça arrive souvent, ou un ami qui est passé, qui avait son ordinateur allumé? Bon, à ce moment-là, le studio peut être inquiété et devra, suivant cette loi, mettre en place un système empêchant cette situation. Techniquement, on ne voit pas comment, mais il paraît qu'il y aura des logiciels appropriés. Alors, pour l'instant, tout ça reste très flou. Le gouvernement n'a pas été en mesure de dire lesquels. L'appel d'offres a été lancé alors que la loi n'est pas encore votée. L'appel d'offres a été lancé justement pour des entreprises qui devront fournir ces services-là. Est-ce qu'ils seront fournis gratuitement? Est-ce qu'il y aura quand même la possibilité d'avoir ces services-là gratuitement? Parce qu'il n'y a pas non plus forcément obligation de payer pour protéger son accès. Enfin, ça fait partie des problèmes techniques qui se posent et qui peuvent toucher les professionnels.
Juste une petite question. Ce qui n'est pas une question, je pense que quand on parlait des problèmes, il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi d'un système, d'une espèce de délation du fournisseur d'accès, à savoir que le fournisseur d'accès constate des gigas et des gigas d'échanges de données sur le compte de tel abonné. Et je pense qu'une rumeur qui s'est répandue, peut-être à tort ou à raison, mais c'est que les fournisseurs d'accès, ou en tout cas les autorités, auraient accès aux informations des fournisseurs d'accès pour voir que monsieur un tel, avec l'adresse IP machin, habitant à telle adresse, le mois dernier, a échangé 40 gigas de données en montant et 60 en descendant, par exemple. Est-ce que ça, on en parle de ça dans la loi ou pas?
Non, je pense pas, parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui serait contraire à des principes fondamentaux des libertés individuelles, d'autant plus que depuis l'affaire Napster, il y a 10 ans déjà, et quand les industries culturelles se sont mises justement à attaquer les internautes, la réaction a été de modifier les programmes, et aujourd'hui, la plupart des programmes d'échange de fichiers utilisent un flux crypté. Donc le fournisseur d'accès, il voit le tuyau, mais le tuyau est opaque, il ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc s'il se base juste pour la quantité, pour dire, ah ben oui, celui-là est suspect, parce que c'est un délit de sale gueule, d'une certaine manière. Et ça, je pense pas que ça puisse être un argument. Enfin, à un moment donné, si on en arrivait là, je pense que là, il faudrait quitter la France. Mais je ne crois pas qu'on puisse en arriver là. Et en plus, bon, les fournisseurs d'accès sont pas trop, pour l'instant, favorables à cette mesure, soi-disant pour des raisons techniques. Est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises? Ça, je suis pas assez compétent de ce côté-là pour savoir. Mais en tout cas, ils sont pas très chauds sur le truc. Donc, je les imagine assez mal parce qu'il y a encore, même s'il y en a peu, il y a encore suffisamment de concurrence. Peut toujours aller s'abonner ailleurs si on apprenait que ce genre de pratique avait cours.
Alors Alexandre Souillet, qui est président d'Olfea, a écrit sur Global Security Mag de mars 2009 que la loi création et Internet va déplacer le problème des téléchargements illégaux au sein des entreprises. En effet, pour lui, il apparaît que l'utilisation non professionnelle d'Internet au bureau représente plus de 70% du surf et que le projet de loi parle d'obligation de surveillance et de vigilance de son accès à Internet. Alors que l'on sait que la loi ne donne pas le droit de regarder dans les courriers des employés, chose strictement personnelle. Alors comment on s'en tire de ça?
Personne ne sait. Pour l'instant, voilà, on en est là. Ça, y a pas de description précise à ce niveau-là. Comment on s'en tire de là? D'autant plus que ça, c'est assez exact. Mais pour les informations que j'ai, cette pratique-là, enfin, ce problème-là est connu des entreprises depuis qu'Internet s'est vraiment développé. Et il y a eu deux types de réactions de la part des entreprises. D'abord, ça touche ou ça ne pénalise d'une certaine manière que les très grandes entreprises, parce qu'il faut quand même une certaine masse de salariés pour qu'ils soient suffisamment distraits par Internet pour que ça vienne à poser un problème de productivité à l'entreprise. Et là, les entreprises, il y a déjà assez longtemps de ça, ont eu le choix, en gros, il y a deux grandes tendances qui se sont dégagées. Il y a celles qui ont purement et simplement, effectivement, filtré au niveau de l'administrateur système, enfin de l'administration du réseau de l'entreprise, qui ont simplement filtré tout ce qui ne concernait pas l'usage professionnel qui est fait, c'est-à-dire si on veut faire des emails, on ne peut se connecter qu'au serveur de mail de l'entreprise. Si on veut aller sur des sites web, on ne va que sur une liste. C'est le principe. La loi prévoit d'une certaine façon. Il y a eu un amendement à cette loi, justement, qui voulait installer le même genre de système sur les points Wi-Fi publics, à savoir une liste blanche, c'est-à-dire on dit vous avez le droit de vous connecter à tel site, tel site, tel site, et tous les autres non. Donc en gros on ferme tout et puis on laisse, c'est comme un mur de briques, hein, on imagine qu'on met un mur de briques et puis on enlève quelques briques. Celle du site web de l'entreprise, celle des services qui sont propres à l'entreprise. Donc il y a des entreprises qui ont choisi cette voie-là pour leurs employés, sachant qu'en même temps ça génère un mécontentement chez les salariés. Et il y a d'autres entreprises, notamment celles de plus de 2000 salariés, qui ont pris un autre parti, qui est celui de laisser totalement libre l'accès à Internet, mais pas toujours en le disant, mais au moins en surveillant un petit peu ce que faisaient les employés, de façon à revendre des profils consommateurs anonymisés et ainsi compenser une partie de leurs pertes supposée d'exploitation du fait qu'au lieu de travailler, l'employé est en train de faire ses courses sur un site de vente par correspondance. Donc du coup, ben, à partir de là, on voit quels sites sont fréquentés. Enfin, ils donnent des statistiques à des entreprises de marketing et de publicité. Donc voilà, en gros, c'est les deux attitudes possibles. Mais là, étant donné que si on se retrouve effectivement confronté à une obligation légale qui, en plus, d'un point de vue strictement technique, est pratiquement... pour l'instant, je crois que très peu de gens imaginent comment ça peut être possible. Ça va poser un problème, c'est sûr.
Alors, beaucoup d'artistes aussi pensent qu'une fois que la loi Hadopi sera votée, ils ne pourront plus mettre les chansons qu'ils veulent et ils ne pourront plus avoir le site tel qu'ils le voulaient pour se faire connaître.
Non, je crois qu'on peut les rassurer, dans le sens où, à partir du moment où j'ai fait ma chanson, je suis titulaire des droits de ma chanson. Et sous réserve que je ne les partage avec personne. À ce moment-là, rien ne m'interdit de mettre ma musique à disposition de la Terre entière. Ça, au contraire, Internet, pour ça, c'est même formidable. Parce que il y a des années, quand on faisait des maquettes avec ses copains dans un garage, à part les copains de copains, c'était difficile d'être connu. Aujourd'hui, on peut s'adresser directement à 1,5 milliard d'êtres humains. Donc c'est plutôt sympa. Par contre, ce dont les artistes risquent de se rendre compte assez rapidement, c'est que s'ils signent un contrat avec une maison de production, qui donc, elle, va prendre une partie des droits, enfin, ou verser, va avoir des conditions sur les droits, la maison de production peut interdire ça. Et à mon avis, ça fait partie des autres dangers de cette loi par rapport aux artistes. Et ça, je suis même surpris qu'ils ne s'en inquiètent pas davantage. C'est que les artistes sous contrat, d'une certaine manière, risquent de disparaître d'Internet. Parce qu'en même temps, et on l'a vu avec U2 tout à l'heure en forme de boutade, je parlais de l'employé d'Universal, puisqu'il est avéré que c'est effectivement un employé d'Universal qui a laissé fuiter l'album. Malgré tout, ça a aussi une utilité. Le rapport des maisons de disques est assez ambigu avec les choses. Des fois, c'est utilisé, des fois, c'est... Et là, est-ce que les artistes vont, à un moment donné, accepter ? Là, on a vu aujourd'hui, je crois, l'annonce, il y avait un article dans 20 minutes, je crois, sur un grand groupe américain qui vient de cesser son contrat avec son label parce que, justement, le label l'empêchait de mettre ses morceaux sur Internet. Ça, c'est un des autres dangers de cette loi. C'est que les artistes, il y a eu, il y a quelques semaines, Kurt Smith aussi, le chanteur de... Tears for Fears, qui a décidé de reprendre ça, ses droits, pour remettre ses chansons.
C'est le problème actuellement des grandes maisons de disques qui font signer des contrats justement à leurs artistes où ils cèdent tout.
Enfin, où la maison de disques prend un intérêt sur tous les produits dérivés. En fait, même sur les concerts, les t-shirts, tout ce qui peut... c'est les fameux contrats à 360 degrés donc, qui encadrent complètement l'artiste. Donc si le problème, c'est ça, c'est un des risques. C'est-à-dire si ce contrat-là comprend aussi le fait que ça va être très difficile d'être présent sur Internet, parce que le problème d'Internet, d'une certaine manière, c'est que ça donne à monsieur et madame tout le monde, à partir de n'importe quel abonnement à DSL, à, d'un certain point de vue, la même puissance d'émission que TF1 ou Warner ou tous les grands groupes. C'est-à-dire que la notoriété n'est pas la même, mais techniquement, la facilité d'accéder à une vidéo, d'accéder à une chanson est... à peu de choses près, entre la différence qu'il y a si je le mets moi sur mon ordinateur portable ici et la batterie de serveur d'un très grand groupe multinational, malgré ça, techniquement, le morceau il est presque aussi facile à récupérer dans les deux cas. Et ça ira pratiquement aussi vite, surtout pour une chanson qui est un petit fichier MP3, ça pèse rien. Donc avec les accès rapides. Donc c'est ce pouvoir de diffusion-là qui effectivement risque, si les artistes en sont privés, par le cadre juridique des maisons de disques, je pense que oui, des artistes risquent de plus en plus de refuser de signer ces choses-là et de refuser d'aller dans un système qui va leur offrir peut-être, oui, dans l'immédiat, qui a une puissance de feu assez impressionnante pour faire connaître quelqu'un très vite, mais qui est en train de perdre du terrain par rapport à d'autres mécanismes, alors qui aujourd'hui ne sont pas vraiment en place, mais il restera toujours cette question de la promotion. S'il y a un moyen alternatif de promotion qui se met en place sur Internet, même un tout petit collectif de quelques personnes peut faire la différence. Par rapport à un grand groupe.
Alors, est-ce que ces droits à Hadopi, le projet de loi qui est très controversé, donc Hadopi, est-ce qu'il le gère aussi ce problème des droits voisins de musiciens dont la musique qu'ils jouent est sur Internet ?
Alors, je pense, parce que effectivement, là encore, mais il y a un flou qui est, donc les mauvaises langues pourraient dire qu'il est entretenu. Le projet de loi s'appelle Création et Internet. Et il y a tout un discours qui dit c'est pour protéger les auteurs, c'est pour protéger le droit d'auteur. Mais je crois que le projet de loi prévoyait une petite modification dans un coin sur un article du Code de la propriété intellectuelle, mais le véritable objectif ne concerne pas tellement vraiment le droit d'auteur, en fait, mais concerne davantage les circuits de financement de la production. Le producteur, lui, c'est pas celui, il n'encaisse pas les droits d'auteur, c'est celui qui, lui, il les paye. Il les paye sous forme de redevance à l'artiste par rapport à un contrat qu'il a avec lui. Il les paye à la société des droits de reproduction mécanique quand il fait fabriquer des CD. Et ensuite, il en récupère éventuellement une partie, enfin, au titre de ses droits voisins en tant que producteur. Mais donc, le projet de loi, mais il le dit pas parce que c'est pas un discours ça paraîtrait un peu plus c'est un peu moins vendeur mais en fait l'objectif de la loi c'est quand même de protéger les circuits de financement de la production plus que le droit. Vraiment, il va pas tellement concerner les auteurs. D'ailleurs, il y a eu des amendements qui ont été présentés ces derniers jours pour permettre un financement et une rémunération des auteurs. Ces amendements-là ont été rejetés.
Alors les musiciens qui pensent, parce qu'ils ont joué dans des grands groupes ou avec de très grands chanteurs, et ils espèrent que cette loi Hadopi va leur apporter de l'argent, ils sont en train de se leurrer.
Ah ben là, complètement, parce que ça touche pas la loi, elle vise à faire en sorte que l'échange de fichiers entre internautes, on va pas dire cesse, mais diminue de façon suffisante pour faire en sorte que les offres, alors qu'ils appellent légales, mais qui sont en réalité, enfin le terme exact c'est commercial ou payante, parce qu'elles sont pas moins légales que le fait d'enregistrer 10 heures, comme je le disais tout à l'heure. Donc dans le but de faire en sorte que les offres commerciales, donc style dont l'iTunes Store d'Apple est le représentant majoritaire, parce qu'ils ont 70% de part de marché, faire en sorte que cette offre-là rapporte suffisamment d'argent pour compenser la baisse des ventes de CD. Parce que maintenant, je crois que tout le monde admet quand même qu'il y a une vraie désaffection. Enfin, c'est la fin du support. C'est pas seulement parce qu'il y a des méchants pirates qui copient, qui pillent, qui font des choses que le CD se vend moins. Si le CD se vend moins, c'est simplement parce qu'on n'en a plus envie. Comme objet, c'est pas pratique, c'est pas spécialement beau. Donc, on préfère avoir 3000 chansons dans un petit objet qui est plus petit qu'un paquet de cigarettes plutôt que d'avoir une collection de CD qu'on peut pas trimballer. On n'a jamais celui qu'on veut dans la voiture. Enfin bon, donc les gens abandonnent le support, simplement.
Là, tu parles du désabandon du support, mais quid de la qualité ? Parce que, bon, même si le MP3 fait des progrès, on peut l'encoder un peu plus fort, on pouvait se dire qu'avec l'émergence du haut débit, plutôt que de voir le CD disparaître, on verrait apparaître des nouveaux formats en téléchargement, du 24-96, pour ceux qui connaissent, même du 16-bit 44-1, c'est-à-dire du vrai format non destructif. Il y en a très très peu, il y a quelques labels audiophiles qui proposent ça, d'acheter des albums au format 24-96, qui sont d'ailleurs pas inabordables, c'est tout à fait jouable, mais ça reste relativement un marché de niche, quoi. C'est pour les audiophiles, on trouve pas encore des tonnes et des tonnes de références, enfin, c'est des petits labels. Donc, est-ce que ça a un avenir d'après toi, des serveurs qui hébergeraient de la musique en haute qualité? Ou est-ce que Apple va fournir autre chose que de l'AC? Enfin, qu'est-ce que tu en penses?
Ça c'est un peu le grand drame du départ d'ailleurs, parce que c'est vrai que on peut dire un mot là-dessus, ça vaut le coup. Le MP3 au départ, c'est fait par un laboratoire allemand qui s'appelle Fraunhofer en association avec Thomson, et ce sont des gens qui font des recherches pour optimiser la qualité sonore des conversations dans la téléphonie mobile, pour faire en sorte que même avec des mauvaises conditions d'émission-réception avec son téléphone portable, le message soit quand même intelligible quand on parle à quelqu'un, qu'on puisse quand même s'entendre. Ça, c'est le propos du MP3. Il se trouve que les ingénieurs de Fraunhofer sont des gens de talent. Ils produisent un algorithme de compression au sens informatique, hein, pas au sens audio, qui marche très bien, qui fonctionne en stéréo, qui fonctionne même maintenant en 5.1, et qui est acceptable pour la musique. C'est un drame, le MP3. Effectivement, on peut, si on accepte de ne pas gagner beaucoup sur le poids du fichier, on peut arriver à quelque chose qui est un peu presque équivalent à l'AIFF ou au format, enfin au 16 bits 44 ans du format CD. Il n'empêche que c'est sûr que le MP3, c'est dramatique. Moi, au départ, d'ailleurs, quand j'ai vu cette chose-là, pour moi, le MP3, c'était un échantillon. Enfin, un échantillon au sens pour se faire une idée d'un morceau. On peut pas, personne ne va acheter, on ne va pas prendre plaisir à écouter du MP3. C'est pas, c'est malheureusement, le public est roi. Et donc, le public prend le MP3. Là encore, ça démarre il y a maintenant 10 ans. C'est 10 ans à l'échelle d'Internet, c'est la préhistoire. Parce que bah, la DSL, oui, mais à l'époque, c'était 128 kilos, 64. C'est pratique. Et puis finalement, on s'habitue. Les premiers, la première boîte qui fabrique un baladeur MP3, c'était le Rio, se fait attaquer par les majors, le produit se fait interdire. Et puis finalement, on se dit, ah bah tiens, on va essayer de le vendre. Moi, personnellement, en tant qu'ingénieur du son, là, pour le coup, je trouve que c'est indigne de vendre du MP3.
D'autant que finalement, ça se vend à 1 euro, enfin 0,99.
Ça se vend le prix d'un album.
Le prix d'un album pour une audition qui est beaucoup plus mauvaise.
Oui, mais pour un format qui est beaucoup plus pratique. Et l'histoire de l'humanité montre que c'est plutôt l'aspect malheureusement pratique.
À côté de ça, au-delà de la taille des fichiers, on a aussi des capacités de stockage qui ont augmenté. Maintenant, un iPod, c'est 160 gigas,
oui,
je crois.
Fait,
ça,
oui.
Ça tient dans la poche. C'est plus petit que les Walkman qu'on avait à l'époque. Donc 160 gigas, on a quand même quoi de mettre pas mal de morceaux en bonne qualité.
Ah oui, tout à fait, oui, parce qu'en plus, il y a le FLAC aussi, qui est le Freeless Audio Compressor, oui. qui arrive à avoir un gain d'à peu près 10% de l'espace disque pour une qualité non dégradée. Bon, ça malencontreusement, là, il est trop tard, c'est pareil. Moi, je pense qu'il y a 10 ans, si le discours des maisons de disques avait été très clair en disant, mais attendez, le MP3, bon... On vous le donne, ce truc-là, on va pas vous le vendre, c'est pas bon, le son, il est pas bon. Et si on avait martelé, au lieu de marteler les gens en disant « les changez pas, c'est pas bien ce que vous faites, on va vous casser la gueule », on leur avait dit « ah oui, non mais allez-y, c'est pas bon, ça c'est pour les petits, ça intéresse personne cette chose-là, nous on va vous proposer ». Et c'est, pendant longtemps, j'ai cru que le 5.1, le SACD avait une carte à jouer là-dessus, et puis... Mais je vous invite à faire un test, vous qui voyez passer divers ingénieurs du son à ce siège. Moi, j'ai fait le test avec quelques-uns de mes copains. J'ai posé la question, est-ce que tu utilises le DXD? J'ai toujours eu la même réponse, c'est quoi? Et donc, je pense que tout le monde connaît le DSD, qui était le format qui est utilisé sur le SACD, qui en fait a été inventé par Sony pour faire des archives. Donc, c'est un format numérique qui ne permet pas de faire de montage ou d'édition des fichiers numériques. Donc, pour pallier à ce problème-là, on a inventé le DXD, qui est en fait un signal numérique PCM à 8 fois la fréquence du CD, donc à 300, je vais faire le calcul, et qui, lui, permet, comme c'est du PCM, permet de faire du montage et de l'édition. Bon, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. Si on était encore, comme on a connu la guerre à l'époque, on appelait ça la course aux armements dans les studios. Dès qu'il y avait quelque chose de nouveau, il fallait l'avoir. Si la même logique était appliquée aujourd'hui, tous les studios seraient en train de se bagarrer pour acheter des enregistrements multipistes, des enregistreurs multipistes DXD, des convertisseurs DXD. Ce qui est aussi l'intérêt des maisons de disques, puisque elles, ce qu'elles ont de plus précieux, c'est leur catalogue, c'est leur patrimoine, c'est les masters. Ça, c'est l'avenir des maisons de disques. Enfin, c'est leur avenir dans 10, 20, 30, 40 ans et au-delà. C'est leur catalogue, c'est les joyaux de la couronne. Quand j'en parle à mes copains ingénieurs du son, ils me disent non. Et quand je leur pose la question, est-ce que tu travailles souvent en 96 kilos? Ils me disent non, 44 ans. Parce que, d'abord, tout le monde s'en fout. À l'arrivée, ça va être du MP3. Écouté sur un téléphone portable avec un haut-parleur de la taille d'une pièce de 1 centime. Et surtout, là, les budgets de production ayant baissé, à un moment donné, tout album, même celui d'un artiste renommé bénéficiant du soutien inconditionnel d'une grande maison de disques, tout album va transiter par l'ordinateur portable d'un des intervenants, que ce soit l'artiste ou l'ingénieur du son ou le réalisateur. Et là, on a envie d'avoir quand même un certain confort de travail en termes de nombre de pistes qu'on peut utiliser en même temps, d'effets, de plugins qu'on peut utiliser en même temps. Et donc, la seule solution qui reste, c'est rester en 16 bits 44.1. De toute façon, dans le meilleur des cas, ça sortira qu'en CD. Et voilà, on en reste un peu là. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais donc le problème de la qualité sonore, malheureusement, on peut pas revenir en arrière tant qu'on n'aura pas quelque chose d'un produit de remplacement. Et pendant longtemps, il y a eu malencontreusement cette guerre aussi entre le SACD et le DVD audio. Et le fait qu'il y a une guerre de format, et qui s'est après, parce qu'on s'est dit aussi, il y avait peut-être le DVD HD et le DVD Blu-ray qui aussi pouvaient servir pour la musique, l'un et l'autre. Mais comme il y avait la guerre entre les deux, les gens n'achetaient pas parce qu'ils attendaient de savoir qui allait gagner. C'est le Blu-ray qui finalement emporte le morceau, tous les autres ont disparu. Et paradoxalement, parce que le Blu-ray emporte le morceau, c'est le DVD HD qui se vend, puisque tous les distributeurs liquident leur stock de DVD HD et donc font un prix complètement bradé sur ce truc-là. Ce qui fait qu'il va se passer des années, et je pense qu'entre-temps, Internet, le haut débit est toujours plus haut, la fibre optique arrive, même si certains opérateurs commencent à reculer parce que justement ils ont peur de la puissance de diffusion que ça va donner aux particuliers, ce qui fait que le support risque d'être totalement abandonné finalement pour conserver que le streaming. Et le streaming HD qui est encore très un peu embryonnaire, mais donc ce qui fait que tout ça n'encourage pas à acheter. Personnellement, j'imagine mal, malheureusement, que à part dans des très petits volumes, effectivement, pour des gens qui aiment vraiment la musique, le son, mais qui sont historiquement toujours été une ultra minorité, hein, une bonne vente dans un album de jazz, c'est 300, donc éventuellement 4000, à part Pat Metheny qui en a 4 millions, mais il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là, dans l'immédiat, en tout cas dans les quelques années qui viennent, mais bon.
C'est triste.
Ah, j'ai jeté un froid.
Oui,
c'est pas réjouissant.
Alors, pour en revenir à la loi Hadopi, pourquoi n'a-t-on pas privilégié la licence globale ?
Alors ça, justement, c'est alors qu'elle avait été votée par les députés au moment de la loi d'AFTSI. Et là, le gouvernement a demandé une deuxième lecture, une relecture du texte, et puis bon, ça a disparu. Pourquoi exactement ? Parce que je crois que, moi, quelque part, personnellement, je suis convaincu que c'est la seule solution. C'est-à-dire que dans le sens où, là encore, il y a un discours de ceux qui détiennent la puissance médiatique qui dit « Ah mais oui, c'est la gratuité, les gens réclament la gratuité ». Je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça. Je pense que tout le monde est d'accord pour que les auteurs soient rémunérés, pour que les producteurs puissent faire leur travail et le faire le mieux possible. Et je crois que tout le monde est d'accord pour mettre un péage quelque part pour accéder aux œuvres audiovisuelles. Mais là où les gens ne sont pas d'accord, c'est où est-ce qu'on met le péage. Il y a les producteurs qui voudraient le mettre sur chaque morceau, et voire même à un moment donné qu'il y avait des espoirs que Microsoft leur avait laissé entrevoir de pouvoir le mettre sur chaque écoute. C'est-à-dire qu'on ne paye pas le morceau, mais on paye chaque fois qu'on l'écoute. Et là, on est dans le délire absolu. Mais ça a été évoqué quand même. Et à l'opposé de dire, bon, la licence globale, c'est le péage à l'abonnement, finalement, c'est une forme de redevance. Alors le contre-argument, c'est de dire, ben oui, mais sur le foyer sur deux qui a la DSL dont on parlait tout à l'heure, il n'y en a que 30% qui téléchargent. Pourquoi les 70% restants devraient payer pour le machin ? La redevance télé, que je sache, même si on ne regarde jamais les chaînes du service public, on paye de la même manière et ce n'est pas au prorata du nombre d'heures qu'on passe devant la télé. Alors, il y a encore aussi un contre-argument qu'il faut démonter parce qu'il n'est pas très juste, qui est qu'on n'a pas les outils pour mesurer. Comment on fait pour mesurer l'audience ? Sauf que là, il y a des sites, par exemple, je pense à last.fm, parce que c'est un de mes préférés. Moi, je suis ce site-là depuis 4 ans, 5 ans, et je trouve que ce qu'ils font, c'est assez intéressant. À partir du moment où on implique les internautes, et Apple vient de faire la même chose avec, dans iTunes, ils ont installé un petit logiciel qui s'appelle Genius, qui officiellement propose des morceaux qu'on serait susceptible d'acheter par rapport à ceux qu'on écoute, sauf que dans la pratique, cet outil-là, il permet merveilleusement bien de faire une mesure d'audience, de savoir combien de fois une personne écoute telle chanson. Et Last.fm permet la même chose, là, de manière tout à fait transparente. On s'inscrit sur le site, il n'y a même pas besoin de donner une adresse email. Ça, c'est quelque chose que je trouve appréciable. Il n'y a pas besoin de donner une adresse email. Enfin, à l'époque où moi, je me suis enregistré, c'était comme ça. Je ne sais pas si ça l'est toujours. On télécharge un logiciel qui est un logiciel open source. Ça veut dire que dedans, il ne peut pas y avoir de fonction cachée parce que tout le monde peut voir le code source du logiciel, peut le compiler lui-même s'il en a la capacité, donc il peut l'étudier, éventuellement le modifier, mais on sait que ce logiciel ne nous trahit pas. Et ce logiciel envoie sur les serveurs de Last.fm tout ce qu'on écoute. Et à partir de là, on peut faire des statistiques. Donc, il y a plusieurs outils. Ces outils-là existent. On peut faire la mesure. Après, bon, il faudrait, par rapport à avoir un ensemble de ces outils-là pour faire une pondération et puis trouver une formule de calcul pour faire une répartition. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait ? L'argent ainsi collecté irait principalement aux auteurs. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand on vend un morceau, on est sur le mode d'un magasin de disques, en fait, d'une certaine manière. Quand on achète un morceau sur Internet, c'est comme acheter un disque dans le magasin. C'est une des erreurs, à mon avis, des producteurs, de considérer Internet comme un circuit de distribution, alors que les internautes le considèrent comme un canal de diffusion, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et là-dessus, il y a l'ancien rédacteur en chef du Financial Times de Londres, qui, à la demande du Parlement britannique, a pondu une étude sur le droit d'auteur, il s'appelle Andy Gowers, et ce rapport est disponible publiquement sur le site du Parlement britannique, où il montre que quand on achète un morceau de musique sur Internet, la part qui revient à l'auteur aujourd'hui, donc les droits, là pour le coup pas le produit de la vente, mais les droits d'auteur qui reviennent à l'auteur, la part des droits d'auteur est moins importante que la part de l'organisme de carte de crédit qui assure la transaction. Là encore, ça fait aussi quelque chose contre la licence. Donc, cet argent-là irait principalement là aux auteurs, d'abord, c'est eux qui touchent le plus, ensuite les droits voisins, les interprètes, là pour le coup les musiciens qui s'inquiétaient, c'est avec la licence globale qu'ils pourraient espérer toucher quelque chose. Ouais. Mais la part du producteur, elle serait ramenée à ce qu'elle est en termes de droits de production, là d'un seul coup elle est bien moins importante, donc ça inverserait le rapport de force entre les artistes. Finalement, un Internet comme ça, où on pourrait échanger, c'est-à-dire chacun payerait une licence globale, c'est-à-dire c'est un droit de diffusion, hein. C'est comme une radio, c'est comme une boutique qui met de la musique, elle paye un droit pour diffuser de la musique dans un restaurant, dans un parking, les gens payent des droits pour diffuser de la musique dans cet endroit-là. Bon, mais la licence globale, c'est quoi? C'est la même chose, c'est l'internaute qui paye un droit pour diffuser tout ce qu'il veut. C'est là où ça revient à nos deux notions de téléchargement de tout à l'heure. Là, c'est le téléchargement montant. Celui qui, pour l'instant, est illégal, en l'échange de cette licence globale, ça devient acceptable. Il envoie ses morceaux et là, finalement, dans ce modèle-là, c'est l'artiste qui, le plus diffusé, le plus échangé, le plus écouté par les internautes, qui va recevoir la plus belle part de la répartition. Et c'est lui qui, d'une certaine manière, mais là encore, les maisons de disques, elles ont une place très importante à jouer là-dedans. D'abord, parce qu'elles ont une très grande expérience et de bonne qualité en termes de promotion, de marketing, de gestion de carrière, de production exécutive. Et ça, c'est autant de services qu'elles pourraient rendre aux artistes, sauf qu'elles deviendraient les prestataires des artistes pour les artistes, au lieu d'en être les producteurs au sens où c'est elles qui décident. Là, ça serait l'artiste qui choisit de leur faire confiance. Ce serait une autre forme de contrat, une autre forme de rapport. Donc je pense que c'est un peu ça qui les inquiète.
Ça serait pourtant pas plus facile à gérer que cette fameuse loi Hadopi?
Ah bah, ça serait, oui, ça c'est sûr que ça serait déjà techniquement tous les problèmes que pose la loi Hadopi qui sont monstrueux, parce que Internet, au départ, ça a été fait, c'est une commande de l'armée américaine qui demande à ce qu'on puisse faire un système où on ne peut pas empêcher un message de passer. Ils font ça dans les années 60, c'est la guerre froide, ils imaginent que l'Europe va être détruite par les bombes nucléaires soviétiques, et ils se disent comment on fait pour communiquer avec le reste du monde. Il faut qu'on ait un réseau où un message passe coûte que coûte. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas filtrer ce réseau-là. Et ça, c'est les militaires américains qui demandent ça aux étudiants du MIT, qui sont parmi les plus brillants. Et eux, à l'époque, le début des années 60, ces gars-là, ce sont des hippies. Ils ont des fleurs. Hein. On voit un peu Richard Stallman, la figure de proue du mouvement du logiciel libre. Bon, ben, on l'imagine plus jeune avec des fleurs dans sa barbe. C'est cette génération d'Américains qui a fait cesser la guerre du Vietnam. C'est des idéalistes, c'est love and peace. Et il y a les militaires qui leur demandent de créer un réseau d'échange et de partage. Ils ont été ravis, les étudiants, de travailler pour les militaires américains. Et ils ont fait ce truc-là. Donc 40 ans plus tard, on se dit, mais on ne peut pas empêcher de filtrer, on ne peut pas filtrer. Mais oui, c'est pour ça que ça a été fait. Donc c'est sûr que là, d'un seul coup, un modèle où on encourage les gens à partager, leur connexion Wi-Fi, c'est pareil, c'est d'une stupidité absolue, de dire aux gens, vous allez être coupables si vous ne sécurisez pas votre connexion Wi-Fi. Alors que dans les ministères, par exemple, le Wi-Fi est interdit parce qu'ils savent que ce n'est pas sécurisable. L'armée française n'a pas le droit d'utiliser le Wi-Fi parce qu'ils savent que ce ne peut pas être sécurisé. Et là, on va condamner des gens au motif qu'ils n'ont pas sécurisé ce qui ne peut pas être sécurisé. On caresse pas vraiment Internet dans le sens du poil. Ou alors, il faut faire un autre Internet. Il y a des laboratoires qui y travaillent, un truc où tout est verrouillé ou machin. Bon. Mais est-ce que ça plaira aux gens? On ne sait pas. Là, c'est sûr que dans ce modèle-là, ça ne va pas fonctionner forcément très bien. Oui.
À l'heure où le gouvernement fait un appel d'offres pour avoir justement des prestataires des services pour trouver des logiciels, pour arriver à gérer cette... je ne vais pas le trouver filtrage. Le terme, ce filtrage, merci. On se demande si la loi Hadopi n'est pas une loi qui est un arbre qui cache la forêt. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que ne va-t-on pas être obligé de faire une espèce de base de données des artistes qui sont les plus connus et qui touchent le plus d'argent et qui appartiennent à des maisons de disques, et de telle manière que lorsqu'ils seront téléchargés, ils seront piratés, on va pouvoir gérer et attraper les fraudeurs. Parce qu'il faut savoir quand même que dans les artistes qui sont à la SACEM, il n'y a que 6% des artistes inscrits à la SACEM qui touchent des droits. Sur ces 6% d'artistes à la SACEM, il n'y en a pas la moitié qui appartiennent à des maisons de disques. Donc on travaille finalement avec une loi qui ne porte que sur 3% d'artistes qui sont dans des maisons de disques et qui sont téléchargés ou pas téléchargés. Ne fait-on pas une loi exprès pour eux?
Bah, c'est l'impression que ça donne, c'est tout le... Et ça, je trouve qu'on l'a senti, parce que quand même, Christine Albanel s'est fait pas mal chahuter par les députés à l'Assemblée dans la première partie de l'examen du texte, et pas seulement par des députés de l'opposition. Et elle a eu du mal à répondre précisément sur cette question-là qui était sous-jacente, parce que c'est vraiment l'impression que ça donne. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que le texte de loi cherche à protéger les circuits de financement de la production. Mais en même temps, il n'y a pas dans le projet du gouvernement, on nous présente les choses en disant il n'y a pas d'alternative possible. Il faut verrouiller et garder le système tel qu'il est, alors qu'il y a quand même un très grand nombre de voix qui s'élèvent partout dans le monde pour dire mais le système tel qu'il est, il ne peut plus fonctionner. Donc on ne peut pas le maintenir artificiellement et créer des bases de données, d'artistes, toutes choses comme ça. Mais là encore, comment derrière vérifier? Le problème, je crois qu'il y a aussi, parce qu'on nous met en parallèle l'abandon des DRM en disant regardez, les producteurs ont fait un pas, ils ont abandonné les DRM, donc maintenant vous pouvez télécharger un fichier et l'écouter sur absolument n'importe quel appareil, n'importe quel système d'exploitation. Bon, c'est très bien. Et donc vous voyez, on nous présente ça comme étant une monnaie d'échange. Mais moi, ce que je trouve plus inquiétant, c'est que le DRM, ça fait très longtemps qu'on sait que ça ne peut pas marcher. Pour une raison simple, hein, un DRM, c'est en gros un coffre-fort. On met quelque chose dedans, qui est la chanson, on met un coffre-fort autour, et puis on vend l'ensemble. Sauf que quand la personne achète l'ensemble, il faut bien qu'on lui donne la clé du coffre-fort, sinon elle ne peut pas accéder à la chanson. Donc, en gros, ça, c'est les maisons de disques ont bizarrement mis 10 ans à comprendre que... Un coffre-fort sur lequel on ne peut pas enlever la clé de la serrure n'a aucun intérêt. Donc là, quelque part, ça relève de ce constat d'échec du fonctionnement du contrôle de la technique. Hein, puisqu'on n'arrive pas à verrouiller les fichiers, essayons de verrouiller les gens. Bien sûr, le projet de loi parle d'éducation, disant la riposte graduée, c'est un mécanisme éducatif. C'est pour amener les gens sans les condamner au pénal et les amener doucement avec d'abord un premier email, ensuite un deuxième email, si vraiment ils continuent, une lettre commandée. C'est progressif, c'est de l'éducation. Mais bon, moi, c'est pas tout à fait ma définition de l'éducation. Personnellement, c'est ça qui me choque.
Oui, parce que le gouvernement s'appuie sur ce qui s'est passé aux USA et en Angleterre, sur le fait qu'il y a une grande majorité des pirates qui arrêtent les téléchargements illégaux après 2 ou 3 avertissements.
Ouais, ça a été testé où ça serait curieux. Je serais curieux d'avoir les sources.
Je sais pas, c'est une information. Une conseillère d'Albanel qui l'avait dit lors d'une interview à l'Express le 17 juin 2008. Voilà.
Oui, parce qu'il y a eu à plusieurs reprises des actions un peu maladroites aussi du côté justement du gouvernement, de prendre en exemple. Un coup ça a été l'Australie, un coup ça a été les États-Unis, plus récemment l'Irlande, la Grande-Bretagne, mais sauf qu'à chaque fois en Australie ils ont dit ah ben non, les Anglais c'est pareil, le ministre, je ne sais plus quel ministre a dit mais non pas du tout, couper l'accès, c'est absolument menacer ça, non c'est pas du tout une solution, donc c'est assez, pour l'instant il n'y a pas vraiment de... Et aux États-Unis, il y a d'ailleurs en accord avec les majors tout un campus universitaire qui teste un principe de licence globale en ce moment et ils sont en train de faire un test. Alors après, c'est vrai que j'ai entendu le pour et le contre, j'ai du mal à me faire un avis sur cette question-là parce que d'un côté, il y a des gens qui reprochent justement à Christine Albanel de dire mais pourquoi faire un projet de loi tout de suite? Est-ce qu'on n'aurait pas pu tester quelque chose d'abord et puis en constater l'efficacité ou la non-efficacité, puis à partir de là essayer d'affiner le projet de loi. Donc ça, c'est ce que font les Américains, mais avec la licence globale pour le coup, pas avec la répression. Alors qu'il y a un courant inverse qui dit bah non, il faut d'abord faire la loi pour pouvoir ensuite mettre en place le système. Mais bon, je repense à la phrase de Jacques Attali qui récemment s'est élevé contre le truc dans son blog, justement en disant que bon, ça ne pouvait pas fonctionner pour le plus grand ridicule de tous. Et j'ai peur que ce soit. Enfin, je vois pas comment il peut en être autrement, en fait.
Ce qui m'a amusé, c'était lorsque j'étais dans un magasin, une grande surface, j'attendais à la caisse et il y avait les cartes de téléphone qui étaient juste en face de moi. Et je regardais, et je suis tombée sur une carte pour 5 euros, chargement illimité de toutes les musiques que vous vouliez pendant un mois.
Alors la question, c'est qu'est-ce qu'elles deviennent après?
Oui, c'est ce qu'on...
c'est toujours le... Ouais. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a des tentatives un peu éperdues dans tous les sens pour essayer de voir ce qui peut fonctionner en alternatif. Je crois que... Mais le problème généralement qui se heurte avec ces offres-là, c'est qu'au moment où l'abonnement s'arrête, on perd l'accès au catalogue. Donc là, il faudrait voir les conditions. Après, c'est marqué en tout petit, il faut prendre la carte, voilà, une loupe, et puis regarder exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec les morceaux. Est-ce qu'il y a des DRM DRM, parce que souvent c'est aussi ceux-là, ils sont encore, je ne sais pas s'ils ont été totalement débarrassés des DRM. Et alors que, bah, pour revenir, je pensais tout à l'heure à la question sur la qualité du son et du MP3, mais c'est pareil, parce qu'en même temps, il y a des initiatives des maisons de disques qu'il faut saluer. Il y a Universal qui a fait deux sites qui sont très très bien, encore un peu pauvres au niveau de leur catalogue, mais que je trouve très bien pensé, c'est une très bonne idée. Ils ont pris des morceaux qui sont extrêmement rares, extrêmement difficiles à trouver, parce que sur le peer-to-peer, faut pas croire qu'on trouve tout. J'entends notamment les labels un peu plus petits qui disent « Ah, mais les majors sont pas touchés, mais nous, c'est les petits labels qui souffrent, mais les artistes des petits labels, on les trouve pas sur le peer-to-peer. Ils seraient bien contents d'être assez connus pour qu'on les trouve sur le peer-to-peer, les artistes du petit label. » Universal a mis deux sites en ligne, un destiné aux musiques de films et un destiné à des musiques plus ou moins trouvables de leur fonds de catalogue. Et donc, ils vendent ça, effectivement. Et ça, c'est une très bonne idée. C'est introuvable ailleurs. Ils les vendent sans DRM, mais malheureusement, ils ont pris que du MP3 à 320 kilos par seconde. Bon, c'est au moins déjà ça, mais sur un site comme ça, typiquement qui s'adresse à des fans et à des audiophiles, là, on aurait pu espérer mieux. Mais voilà, mais ça, c'est en même temps l'initiative, ça peut venir après avec un plus haut, c'est pas grave, c'est pas tellement un problème immédiat, mais en tout cas, voilà, ça, c'est une initiative qui est tout à fait excellente et qui montre en même temps la richesse d'un catalogue d'une très grande maison, parce que ça le reste quand même. Donc c'est un peu le chaud et le froid, et je crois que c'est des offres diverses et variées, c'est le fruit de beaucoup d'incertitudes, mais malheureusement, de pas tellement de dialogue, en fait, finalement. Ils essayent des choses parce qu'ils sont un peu tout seuls, on a l'impression qu'ils sont un peu tout seuls dans une tour d'Ivoire. S'il y avait un petit peu plus de communication de part et d'autre, peut-être ça pourrait mettre en avant les bonnes choses, justement, et puis gommer les maladresses.
Alors, d'après toujours les déclarations du ministère de la Culture, on dit que les dossiers provenant justement de toute cette surveillance, c'est la haute autorité. C'est la haute autorité qui va s'occuper de tous les dossiers, d'après ce que j'ai compris. Et cette haute autorité ne comportera que 7 personnes.
Oui.
Comment pourra-t-elle gérer, puisqu'on parle de milliards de téléchargements, comment pourra-t-elle gérer tout cela?
Alors c'est très simple, sur les bases qui ont été données par les chiffres qui ont été donnés par le gouvernement dans ses ambitions par rapport à ce projet-là, il y a effectivement 7 personnes qui vont travailler là, donc on est arrivé au constat qu'ils auront exactement 25,2 secondes pour traiter chaque dossier. Donc ce qui laisse largement le temps pour une procédure contradictoire et qui laisse largement le temps, bien sûr, aux internautes de pouvoir se défendre si il s'avérait qu'ils sont là par erreur, quoi. Donc oui, ça fait partie aussi des questions en suspens, mais qui n'ont pas l'air de, pour l'instant, d'avoir ébranlé le gouvernement, parce qu'en même temps, ça va dans le sens, d'une manière générale, on réduit le nombre de tribunaux, on réduit le... Bon, ben donc c'est pas étonnant qu'ils soient 7, qu'ils aient 25 secondes pour faire un truc, a priori, c'est déjà bien, quoi.
Alors, qui est contre ce projet, finalement?
Alors, qui est contre?
Je sais qu'il y a le Parlement européen qui avait voté le 10 avril 2008 une résolution qui invite la Commission et les États membres à éviter de prendre des mesures qui entrent en contradiction avec les libertés civiques et les droits de l'homme et avec les principes de proportionnalité, d'efficacité et de dissuasion tels que l'interruption de l'accès à Internet. Alors, qui y a d'autre?
Alors, qui y a d'autre? Bon, il y a... une partie des députés, je le disais tout à l'heure, même dans le parti majoritaire, qui pense que c'est pas une très bonne idée. Les fournisseurs d'accès sont pas non plus enchantés par la mesure, parce que bon, ça peut leur poser un certain nombre de problèmes. Il faut c'est un peu la concurrence éventuellement. Qui est contre également. Je crois qu'en fait tous les groupes concernés de près ou de loin sont partagés. Parce qu'après, dans les artistes, on en voit qui, malheureusement, ont des termes un peu malheureux. Parce que là, encore récemment, je crois une comparaison avec la baguette de pain. Donc, qui sont des gens qui confondent donner l'heure et donner sa montre. C'est un peu le... Mais en même temps, on voit qu'il y a un certain nombre d'artistes qui sont favorables. Et alors, certains qui commencent à vraiment tirer des bénéfices. Alors, parce que, je pense à Radiohead ou à Nine Inch Nails. En même temps, alors c'est vrai qu'il y a toujours le débat aujourd'hui. Parce que ça, ce sont des groupes qui ont fait leur notoriété grâce au système des maisons de disques. Donc après, c'est vrai que c'est un peu facile quand on est déjà très connu de dire ah, « Attendez, moi, je vais faire mon truc dans mon coin ». Mais bon, là, faudra... Je crois que finalement, ça va rejoindre un petit peu parce que ça reste le fruit d'une modification technique. Et ça peut rejoindre ce qui s'est passé souvent, dans le domaine de la production musicale où, à un moment donné, arrive un artiste qu'on n'attend pas, avec un succès surprenant, enfin, surprenant pas au sens où il ne le mérite pas, mais surprenant au sens où, bah oui, on sent vraiment qu'il y a des gens qui arrivent comme ça, qui passent comme des comètes. Et je pense qu'à un moment donné, peut-être, il faudra qu'un modèle économique se mette en place. Le problème, c'est ça aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aujourd'hui pas vraiment de modèle alternatif qui paraisse très solide, surtout avec un refus de la licence globale, d'autant plus que c'est pas non plus totalement faux de dire que même si ça pourrait faire école après par la suite, mais la licence globale ramenée à la seule France, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il faudrait pas au moins une réflexion justement au niveau européen sur cette chose-là? Il y a ces questions-là. Donc je crois que on voit bien que tout le monde est partagé finalement sur cette question. Ma position étant que il y a un sens de l'histoire, mais pas tellement finalement au sens du maréchal Ferrand, comme on parle souvent, qui a perdu son boulot quand la voiture est arrivée, mais plus vraiment au sens finalement le nœud de la question, c'est donner un pouvoir de diffusion. Accepter que tout individu ait un pouvoir de diffusion, ce qui est toujours une prérogative qui est jalousement gardée, aujourd'hui par des intérêts économiques, mais bon, on parlait tout à l'heure du début des radios libres ou des choses comme ça, ou même avant, moi j'ai connu la CB, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chose-là, on pouvait parler dans un micro, là encore, finalement la CB a été tuée parce que la pratique a été légalisée, mais dans des conditions techniques telles que ça n'avait plus aucun intérêt. Mais en même temps, c'était légalisé, donc il n'y avait plus trop de contestations possibles, et donc ça a disparu. J'ai un peu peur des fois qu'il se passe la même chose avec Internet, c'est-à-dire que je crois qu'il y a une tentation, et ce projet de loi est l'expression de cette tentation, enfin une des expressions de cette tentation-là, qui consiste à transformer Internet en Minitel. En gros, c'est-à-dire remettre le système où, grosso modo, tout le monde est à peu près passif et récepteur. Et puis, il y a quelques grands émetteurs qui fournissent la bonne nouvelle. Le problème, c'est que c'est ça qui me paraît finalement ne pas être dans le sens de l'histoire, dans le sens de l'évolution des techniques. Parce qu'en même temps, on a bien accepté qu'on ait un appareil photo sur un téléphone. Moi qui ai vécu une adolescence plutôt proche de l'idéologie soviétique, ça me paraît aberrant qu'on autorise les gens à prendre des photos dans les lieux publics. Alors, si, maintenant, je m'y suis fait, mais à un moment donné, bon, c'est un peu le... Donc, à partir du moment où on a ouvert des vannes comme ça, sans vraiment se rendre compte, alors, il y a un contre-courant. L'autre chose dont je me méfie, c'est aussi... Alors, il y a un contre-courant qui pourrait être dangereux, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le cloud computing, c'est le nuage. C'est-à-dire qu'en gros, transformer, parce que l'autre objet dangereux dans l'histoire, c'est l'ordinateur. En donnant un ordinateur à n'importe qui, on lui met entre les mains quelque chose qui est quand même extrêmement puissant, qui peut faire beaucoup de choses. Et ça peut aussi poser des problèmes, contrairement à un téléphone portable qui, lui, est un terminal verrouillé. On ne peut pas tellement installer les programmes qu'on veut, faire ce qu'on veut avec. L'ordinateur, ce n'est pas pareil. Donc, on voit bien cette tendance qui se dessine en ce moment de dire, mais finalement, vous vous rendez compte, c'est dangereux. Vous avez toutes vos informations sur votre ordinateur, mais si vous le perdez, si on vous le vole, si il casse, qu'est-ce que vous faites? Vous perdez vos dossiers, votre truc, mettez-les sur le nuage. Alors, le nuage, qui le contrôle, ça on ne sait pas. Et à l'arrivée, l'ordinateur ne devient plus qu'un terminal où il n'y a plus d'application dessus. On peut éventuellement plus en installer. Et il n'y a plus ces données dessus. Donc il y a cette chose-là, bon, qui d'après, je suis tombé sur une étude très récemment qui ne prévoit pas d'avenir vraiment très fiable pour cette chose-là avant 2013-2015, mais il y a le petit côté, alors il ne faut pas être parano non plus, je ne suis pas du tout branché théorie du complot, il faut garder une certaine maîtrise de ses capacités individuelles, et la lutte, elle est un petit peu là, parce que je crois aussi que la musique... Plus particulièrement, et là je parle plus de la musique parce que c'est plus le domaine que je connais, ça concerne peut-être un peu moins le cinéma, mais parce que aussi même au sens large, on peut dire les gens du spectacle ont, je crois, été aussi souvent la première vague des grandes réformes sociales où, à un moment donné, quand la société change, ça commence un peu par là, parce que c'est une population qui est pas très nombreuse, qui est très divisée. C'est aussi plus simple de faire les choses. Et là, faire une valeur emblématique, de donner une valeur à ça, parce que c'est quand même un texte de loi qui est amené là dans l'urgence, qui est considéré comme étant plus important que la réforme des hôpitaux ou des prisons, parce que derrière, en arrière-fond, il y a aussi la propriété intellectuelle et industrielle au sens large, qui est, paraît-il, un des grands enjeux de l'avenir entre les pays du Nord et du Sud. Et donc, où là, il ne faut rien lâcher.
Très bien. Des questions à poser, Christophe ?
Laisse-moi faire. Oui, une dernière sur la licence globale. Est-ce que tu sais s'il y a eu des études qui ont été faites pour chiffrer le coût d'une licence pour l'utilisateur moyen, je veux dire, et, en termes d'augmentation sur l'abonnement Internet, etc. Est-ce qu'on sait combien ça pourrait coûter pour être équitable et rentable, puisque c'est de ça qu'on parle un petit peu quand même.
Oui, mais j'ai pas d'informations récentes à ce niveau-là. Moi, j'en suis resté à ce qui avait été annoncé, prévu et voté par les députés au moment de la loi d'AFSI. Enfin, le montant n'avait pas été fixé dans la loi, mais on parlait à l'époque de quelque chose qui serait entre 4 et 7 euros par mois, sachant qu'aujourd'hui, avec 20 millions d'internautes, le calcul, il est assez, assez rapide. Hein. Ça fait 80 millions par mois, donc ça ferait presque 1 milliard par an, sachant que le chiffre d'affaires dans l'industrie du disque est de 600 millions, enfin, ou 700. Donc,
c'est ça, oui, c'est pas mal.
Donc, ça, en même temps, il faudrait que ça comprenne, voir, ça pose beaucoup plus de problèmes au cinéma, parce que c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher de faire un film que de faire un disque. Donc, il y a des problèmes sans doute plus complexes dont je n'ai pas tout à fait idée, mais les montants qui étaient évoqués à ce moment-là, c'était à peu près de cet ordre-là, oui.
Merci Patrice Lazareff d'être venu nous voir, nous avoir parlé de ce qui vous titille sur le projet de la loi Hadopi, qui est en train d'être discuté en ce moment.
Oui, et qui sera très probablement voté.
Merci Christophe d'être venu. Eh bien, je vous dis à très bientôt et peut-être une suite à cette discussion.
Un débat peut-être à l'occasion, on trouve d'autres férus du sujet.
Ah, bah avec joie, oui, tout à fait. Un débat. Je suis partant.
Très bien, on vous tiendra au courant.
Autre radio, autre culture, à très bientôt. Au revoir. Autre radio, autre culture.